Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 17 septembre 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Janot Dead, et à 17h FMR, celle de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la fresque historique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end,
certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés et certains parfois doivent dégager.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. L'équipage est heureux de vous accueillir dans ce magnifique automne qui s'annonce où enfin il pleut.
Déjà.
Ouais, hein? Alors qu'on a eu un mois de juin, juillet bien pourri, un mois d'août qui commençait à se réveiller, hein, début de mois de septembre, il commençait à faire beau et maintenant il pleut, mais on n'est pas là pour parler du beau temps.
Oh, ça fait du bien, pluie. Non, quand même, de temps en temps.
Ouais, de parler de la pluie et du beau temps.
Ça fait respirer, oui.
Ouais, bon, d'accord, ok, soit. Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 288, si je me trompe, et aujourd'hui, je vais dire, après une émission qui a été un petit peu, quand même, axée sur le 11 septembre la semaine dernière, dont on a eu d'ailleurs pas mal de retours, ce qui nous fait plaisir.
Cette semaine, le 18 septembre.
Je te rappelle que c'est bientôt le 21. Tiens, c'est les 10 ans aussi. Je suis sûr qu'il y a un complot. Oui.
On croit pas aux coïncidences.
On croit pas aux coïncidences, pas du tout. Plusieurs choses quand même à dire, notamment ce qui se fait aujourd'hui, notamment à la librairie Terre de Légende. Henri Meunier et Richard Guérineau, dédicace après la nuit, après la soirée de BD concert, de concert de dessin qui a eu lieu à la Cinémathèque de Toulouse. C'est donc à Terre de Légende à partir de 15h, si je me trompe. Il y a aussi un blogueur qui est en dédicace à la FNAC.
Je sais pas.
Mais comme la FNAC ne nous donne aucune info, tant pis, on ne sait pas qui c'est, je ne sais juste qui fait des affiches de combat, de théâtre, qu'il a passé Céd. Une année sans internet. Ah bon, c'est Céd, tu es sûr?
Oui.
Ouais, bon, on remercie une fois de plus le service communication de la FNAC de nous bouder. C'est qui ce Céd? Ceci dit, parmi les autres choses qui se préparent dans l'agenda, sachez que le jeudi 29 septembre, Eric Lhomme, qui est un auteur jeunesse, ses fantaisies dédicacera à la librairie Gilbert Joseph. Et le 8 octobre, Guillaume Bouzard, auteur de The Autobiography of Me chez Rocamarteau, celui de Autobiography of Me 2, Autobiography of Me 3. Il est aussi illustrateur dans Sofoot et dans Fruit Glacial, sera en dédicace aux côtés de Rolom, pour Rolom qui sera là pour Andy et Gina, tome 5 sera là aussi à la librairie Gilbert Joseph.
Moi, c'est marrant parce que j'aime pas tellement ce qu'il fait Bouzard dans Slow Foot, quoi.
Ouais, moi, je regarde jamais, moi.
J'ai oublié.
Ouais, bon, bah, ok. Non, mais ça fait rien, disons. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, donc voilà. Mais bon, moi, c'est mon avis personnel.
J'ai juste oublié de lancer l'enregistreur.
Encore?
Quelle honte.
Ah, comme ça, on saura pas que j'ai dit du mal de Bouzard.
Il y a l'enregistreur CSA, je peux récupérer l'enregistrement, c'est pas un problème.
Merde.
Ça tombe mal.
Damien. By Jove.
Voilà. Ceci dit, il y a bientôt le TGS, c'est fin novembre, et ils sont en pleine période de recrutement, si je puis dire, parce que comme tout grand événement sportif, ils ont besoin de bénévoles.
Oui, ils recherchent des bénévoles pour les aider à organiser le TGS pendant dernier week-end de novembre, ce sera les 26 et 27 novembre, je crois, ouais. Je relaie l'annonce par la direction du TGS. Donc si vous voulez les aider et que vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas dans vos projets de voir le TGS du côté visiteur, c'est l'occasion de voir du côté organisateur. Donc voilà, sachez que si vous venez hors de Toulouse, il y a possibilité éventuellement de négocier des chambres d'hôtel, des trucs comme ça. Et bon, ça vous fera une expérience. Si vous voulez aussi vous orienter ensuite dans l'organisation d'événementiel, ça peut toujours être une bonne expérience. En plus, l'organisation est assez dans une ambiance bon enfant. Voilà, donc je...
Faudrait peut-être quand même préciser une chose qui est relativement importante, c'est que quand on est quand on est dans l'accueil, dans ce genre de choses, puisque c'est surtout ça, hein, c'est le suivi, l'accueil, l'accompagnement et tout ça, on n'a pas vraiment le temps de profiter quand même, hein,
oui, voilà,
du festival. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'y allez pas parce que vous êtes fan, parce que c'est franchement contraignant. Hein,
c'est contraignant, vous verrez pas les stars, vous ne pourrez pas faire des dédicaces, vous profiterez pas des concerts. Donc c'est vraiment, c'est ce que je disais, si vous n'avez pas pour projet de voir ce TGS.
Par contre, effectivement, si vous êtes dans une filière tourisme, organisation d'événements ou accueil, secrétariat ou ce genre de choses, ou même tout simplement, si vous connaissez un petit peu dans les langues étrangères et tout ça, c'est peut-être une occasion, puisqu'il y a quand même des gens qui viennent d'un petit peu partout au-delà de la région.
Voilà, ou alors si vous êtes un gros pervers et que vous voulez voir des films des filles déguisées en chat à moitié nues, non?
Ou alors, vous avez vu déjà tout ce qui s'est passé à tous les TGS depuis le début, Bernard Minet à chaque occasion, c'est les mêmes stands de toute façon, il y a que quelques fois les nouveautés en ce qui concerne les jeux vidéo, les mêmes contests sur les jeux vidéo, et puis vous dites, bah pour une fois, bah, je vais passer de l'autre côté, voilà, là aussi c'est une solution.
Côté obscur.
Il n'y a pas de problème. Ceci dit, plusieurs choses à signaler, on vous avait dit que Dargo avait racheté, avait racheté les droits d'exploitation de DC pour l'Europe, au grand dam de Panini Comics, mais Panini Comics finalement semblait plus privilégier Marvel, du moins pour les mecs de chez Warner DC, c'est ce qu'il en ressortait, hein, de ce qu'ils vont envoyer, et donc ils ont dit, ah bah on va le filer au groupe Média Participation. Donc Dargo a dévoilé le nom du label qui publiera les productions DC Comics, ça s'appellera Urban Comics. Ok, pourquoi pas. Enfin, Superman, lui, il vient plutôt de la cambrouse. Hein.
Moi, je m'excuserai. Comme nom, mais
c'est un pays zous. Hein.
Urban, c'est pour Batman, mais bon, le reste est Green Lantern, on peut pas dire que ce soit urbain.
Voilà. Au menu du DC Comics, la collection Vertigo, qui est plus une production adulte.
Oui,
je vais pas dire autorisante, hein, voilà, mais je vais dire c'est une BD, je vais dire plus d'auteurs entre guillemets d'auteurs MC avec des personnages mainstream.
Ouais, mais Vertigo aurait dû paraître au départ les The Boys, mais qui a été refusé par DC dans Vertigo parce que c'était vraiment trop. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont dû se tourner chez Dynamite Comics.
C'est un exemple. DC Kids, qui est des spin-off pour gamins, etc. Et surtout Mad. La revue Mad, la revue mythique d'humour aux États-Unis, celle qui a inspiré Flic Glacial en France et tout le reste. Donc tout cela va arriver. On n'a pas encore de planning de publication. Je pense que peut-être il y aura un événement pour le Festival d'Angoulême, ce qui me semblerait logique puisque ce sera une grosse carte à jouer à ce moment-là. Et ça me semble être le meilleur moment pour lancer, je veux dire, les distributions. Pour l'instant, on n'en sait pas plus.
En tout cas, moi je crois que le problème qui va se poser pour Mad et qui s'était déjà posé de par le passé, c'est que il y a quand même pas mal de ce qui se passe et de l'humour qui est développé dans le Mad, qui est typiquement américain et qui nécessite une culture, une connaissance de la culture américaine et de la situation en général aux États-Unis, parce que c'est vraiment, bon, on va dire, c'est pas vraiment de la private joke, mais bon, ça concerne vraiment le microcosme américain, un petit peu à l'instar d'ailleurs de, tu l'as cité, du Flux Glacial, qui sort souvent des vannes et des trucs comme ça qui sont vraiment franco-françaises, qui sont difficilement des fois compréhensibles par l'étranger qui parle le français mais qui ne connaît pas vraiment la culture ou la politique française.
On est bien d'accord. Thomas.
Ah oui, mais je pensais qu'on allait.
Il y a la sortie Blu-ray.
Je pensais qu'on allait en parler pendant la partie cinéma.
Alors, bon, d'accord, ok. Ben, dans ce cas-là, on décale.
Non, mais t'as fait le jingle. Alors, du coup,
c'est quoi
on est arrivé.
C'était quoi ce jingle?
Une minute avant l'antenne. Hein, c'est pour ça que j'ai oublié d'enregistrer les trucs, etc. Que les niveaux sont pas exactement des cafés.
Alors, à l'occasion de la sortie en Blu-ray de Star Wars.
Tu devrais rester, Luce.
Le site de cloneweb.net a rencontré le journaliste Rafik Djoumi, qui est un conférencier, qui est spécialiste du cinéma de genre, qui est ancien collaborateur à Mad Movies, à DVD Rama, etc. qui a écrit un essai sur Peter Jackson là, sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux, qui est disponible uniquement en adhérant là au site Cadrage, et qui a surtout écrit George Lucas, l'homme derrière le mythe. Donc,
À noter aussi qu'il intervient aussi sur le site Arrêt sur Image, où il fait des analyses absolument stupéfiantes. Hein. Franchement, ça vaut le coup de s'abonner pour le coup.
Il est également fondateur du site Matrix Happening, qui avait décrypté l'univers Matrix. Et donc, ce Rafik Djoumi a écrit George Lucas, l'homme derrière le mythe, son propos est de montrer, parce que George Lucas a autant des partisans que des détracteurs. Les partisans pensent que c'est un dieu vivant, puisqu'il a inventé le cinéma. Et d'autres pensent que c'est un tâcheron sans talent qui a juste vendu des jouets. George Lucas, c'est à la fois le premier et le deuxième. C'est-à-dire que c'est quelqu'un...
Mélangé à la cuillère, pas au shaker, à mon café, merci.
Beaucoup de gens ne comprennent pas comment cet homme-là a pu faire la première trilogie Star Wars, ainsi que la prélogie. Et Rafik Djoumi,
c'est un terme qu'on n'avait pas entendu jusque-là.
La prélogie, oui. Et Rafik Djoumi explique que le George Lucas qui a fait la prélogie, il y avait déjà des prémices dans tout ce qu'il faisait à l'époque, surtout en plus tu as en parlé, je crois, dans une émission précédente de autant de Star Wars, je crois, où c'était l'épisode de Noël de Star Wars qui était complètement nul.
Qui avait été produit par CBS et George Lucas a tout fait après pour le détruire, sauf que il a été diffusé deux fois, une fois sur CBS pour Noël et en avril suivant sur une chaîne TF1, je crois, puisqu'il y a eu une version française qui a été diffusée. Il est introuvable autrement qu'en VHS, qui depuis ont été rippés, qui sont à prix d'or.
Rafik Djoumi parle justement de cette diffusion sur TF1. À l'époque, il avait regardé sur TF1, puisque en plus à l'époque, il y avait les foyers n'étaient pas encore équipés en VHS aussi.
Il racontait qu'en fait, quand la trilogie était sortie, il venait d'arriver en France depuis deux mois. Il était allé, comme il disait, ça a été sa première grande claque.
Voilà. Et donc il explique CloneWeb.net, le site, est allé rencontrer Rafik Djoumi pour qu'il nous parle justement de son expérience Star Wars quand il était à l'école et qu'il avait vu Star Wars dans les salles, et également comment il a vécu la sortie de cette nouvelle trilogie. Et il explique dans une argumentation qui mériterait des heures à préciser, en fait, que George Lucas, tout Star Wars, en fait, ça parle de la confrontation au père. Au propre père de George Lucas, qui était vendeur de jouets. Et George Lucas, il faut savoir, quand il était étudiant à l'école de cinéma, en fait, il se voyait auteur un peu obscur, puisqu'il faisait des œuvres de science-fiction qui étaient imbitables. Il se voyait vraiment auteur. Il parlait de Fellini, alors que Spielberg se voyait plutôt réalisateur commercial. Et George Lucas, avec Star Wars, il est devenu le premier vendeur de jouets au monde, et du coup il est devenu ce qu'il était chez son père, c'est-à-dire qu'il est devenu son père. Donc l'histoire de Star Wars, en fait.
Il est devenu, en plus, par un concours de circonstances, puisque en fait Major était frileuse sur le financement, parce que le film avait commencé à avoir des dépassements de budget, et il a dit: je renonce à mon salaire
du merchandising.
Et à l'époque, le merchandising était quasiment inexistant, c'était quelque chose qu'on ne penserait même pas dans le plan com, et lui il a réussi à l'intégrer, à mon avis, de son expérience de son père, du coup.
Et Rafik Djoumi, dans cette série d'entretiens en vidéo sur Internet, sur YouTube, explique que il a pour l'écriture de son bouquin sur George Lucas, il a rencontré Gary Kurtz, qui était le producteur de la trilogie originelle, et il expliquait que justement George Lucas, s'il était arrivé à ce niveau de qualité sur la première trilogie, c'est parce qu'il avait plein d'amis de son âge, sa femme qui est restée 15 ans avec lui. Il y a personne qui parle jamais de la femme de George Lucas, alors que c'est elle a eu un rôle énorme. Il est entouré de Spielberg, de Coppola, de Palma, qui lui disait: non, George, ça, tu fais ça, c'est de la merde, tout le monde se fout de ce personnage. Donc il a dû remanier, c'est pour ça qu'il est arrivé à cette trilogie là qui est très très simple au niveau de la narration, mais qui sous-entend plein de choses qu'il a élaguées, puisque c'est comme ça que se fait l'écriture des scénarios. Et sur la nouvelle trilogie, il était accompagné d'une armada de Benny Oui-Oui qui disait: oui, tu es notre dieu, oui, de toute façon, tu écris ça, donc c'est forcément génial. Et donc il est allé torpiller lui-même, presque à un niveau inconscient, l'univers de Star Wars, puisque comme il se voyait aussi artiste auteur, il faut pas oublier qu'il avait fait American Graffiti, qui avait été considéré comme une date aussi dans l'histoire du cinéma, il prend plaisir à torpiller tout l'univers qu'il a mis en place. Et George Lucas, alors il y avait un script pour le Retour du Jedi qui s'appelait La Revanche du Jedi, qui avait circulé, que Gary Kurtz a fourni à Rafik Djoumi. Et il disait, alors la fin, la conclusion de cette trilogie-là voulait que Harrison Ford était ranimé au début du retour du Jedi par ses amis, mais qu'il devait se sacrifier, lui qui était le mercenaire par excellence au début du 1, et il devait se sacrifier dans le retour du Jedi pour permettre à la cause résistante de s'épanouir, et Princesse Leia devait retrouver ses habits de reine et donc renoncer à tout ce qui faisait d'elle une femme, c'est-à-dire la romance avec Han Solo, ses amis et tout, et elle devait retrouver ses fonctions. Et Luke, une fois le conflit résolu, devait endosser la défroque de Obi-Wan Kenobi et revenir en ermite, se mettre la capuche et repartir loin dans le désert de Tatooine. Puisqu'il avait vu tellement de choses, il s'était confronté à tellement d'adversaires et à être accompli en tant que chevalier Jedi, qu'un chevalier Jedi, c'est un ermite. Et donc, c'était la conclusion logique. Et donc, ce script-là a été abandonné par Lucas, qui a rajouté des Ewoks, il a rajouté plein de trucs et tout. Et il montre justement comment Lucas a pris plaisir à saper tout à fait son univers. Donc, c'est tout à fait intéressant. C'est une série de 4 entretiens, disponibles sur YouTube. Vous allez sur cloneweb.net, vous avez les 4 entretiens en vidéo de Rafik Djoumi. Et c'est absolument passionnant.
C'est assez long en tout. Je crois que ça va faire une heure, un truc comme ça.
À peu près, ouais. Chacun fait un quart d'heure. Il explique, d'un point de vue analytique, en tant que journaliste de cinéma, il explique aussi en tant que fan déçu, en tant que premier spectateur à l'époque, et il explique aussi comment George Lucas a pris plaisir à faire oublier la série génialissime de Tartakovsky en animation Clone Wars. Il a refait ça en 3D pour un public plus âgé de 6 ans et Clone Wars n'est plus distribué, personne n'en parle plus de la version de Tartakovsky.
Ça fait partie donc justement de l'autodafé qu'il a fait de son propre œuvre. Hallucinant, c'est hallucinant.
Une entreprise suicidaire, infanticide.
Sachant qu'il y a justement cette réédition en Blu-ray, il n'a pas pu s'empêcher de tout tripoter.
Ah
donc,
oui, il
y a des trucs.
Il
y a autant des plans passent encore, mais il y a une scène qui est mythique, c'est quand dans l'Empire contre-attaque, Luke apprend qui est son père. Et lâche la rampe et chute à travers la cité volante. Ben, j'ai oublié son nom.
L'étoile noire. Nuages,
hein?
Non, c'est pas l'étoile noire.
Non, c'est la cité de pas Coruscant, mais la cité de Lando Calrissian.
Voilà, dire que je l'ai su par cœur à une époque. Et en fait, sur ce plan, il y a Luke qui crie dans sa chute et ils ont rajouté une voix Dark Vador, ils ont rajouté une réplique où lui aussi il hurle.
Qui est une construction en miroir par rapport au cri que lance Dark Vador dans l'épisode 3 La Revanche des Sith, qui avait été crié par tous les fans. Mais George Lucas dit, je vous emmerde, je la mets aussi dans l'Empire contre-attaque, qui est considéré par tous les fans comme le meilleur film de la saga. Donc voilà, il prend plaisir.
C'est le massacre total.
Ah, il massacre les fans aussi. Des fans avaient édité un t-shirt, puisque pendant la ressortie de la trilogie en 97, la première trilogie, il avait gommé l'un des passages les plus ambigus de Han Solo, puisque quand il est dans la cantina de Mos Eisley, il y a un gunfight entre lui et Greedo, et on n'a jamais su, c'était Greedo ou Han Solo qui avait tiré en premier.
Enfin,
donc,
dans l'original, serait... c'est Han Solo qui tire en premier, et dans la réédition...
On n'a jamais su, et dans la réédition, en fait, c'est Greedo qui tire en premier, donc ça veut dire que ça blanchit totalement Han Solo, et les fans ont dit un t-shirt, Han Solo shoots first. Et George Lucas, quand il se baladait sur la production du 4e Indiana Jones, il avait pris ce t-shirt comme quoi ouais vous pouvez éditer tous les t-shirts que vous voulez, je peux le mettre, mais bon, je m'en fous. Voilà.
Non, ça a été gommé d'ailleurs dans la deuxième édition VHS, celle qui était arrivée en Europe. Donc c'est pour ça qu'on l'avait pas vu. Enfin, il y a toute une histoire, c'est assez passionnant en fait. Star Wars, non seulement pour sa mythologie elle-même, mais pour sa mythologie de production. Et c'est là-dessus que l'on mettra le lien sur le site de l'émission supplémentweekend.fr. Vous écoutez www.radio-fmr.net. Et dans l'horloge qui est derrière moi, il est 12h21 et ma foi, on n'a pas fini les news puisque en fait, ce sont des news relativement tristes qui sont arrivées cette semaine. Vraiment tristes pour la bande dessinée en elle-même. Ça me tient un petit peu à cœur parce que figurez-vous que Gilles Chaillet nous a quittés mercredi dernier. Alors Gilles Chaillet, c'est l'auteur de Vasco et de plein d'autres choses, on va en parler. Il a commencé par de la bande dessinée publicitaire au début, puis il est entré en 65 au studio d'Argos sur des maquettes et illustrations de différents magazines. Il sera aussi encore et coloriste de séries telles que Blueberry, Tanguy et la Verdure ou encore Achille Talon. il sera l'une des plumes d'ombre de d'Arzo, puisqu'il dessinera une dizaine d'albums d'aventures, d'idées fixes sur un scénario de Guy Vidal. Ça, c'est dans les années 60. Puis, il s'occupera surtout de dessins de merchandising, dont les affiches du dessin animé, des dessins animés, comme par exemple les 12 travaux d'Astérix. On le sait pas, mais pas mal d'affiches internationales ont été signées justement par Gilles Chaillet. Et en 1977, sa signature apparaît, enfin, quand il reprend le dessin de la série Guy Lefranc, qui a imposé un style hyper réaliste. Jacques Martin continuait à signer le scénario, mais souhaitait se concentrer plus sur sa série principale, à savoir Alix. Étonnamment, le premier album est Les Portes de l'Enfer, un album très noir, dans un paysage très ravagé. Et à noter quand même que Jacques Martin avait déjà proposé au départ à d'autres dessinateurs de prendre la suite, en fait, de la série Guy Lefranc. Il avait proposé d'abord à Roger Leloup, qui avait refusé, puis ensuite à Bob Demort. Mais là, c'est Hergé qui avait fait cesser la collaboration en disant « Non, Bob Demort, j'en ai besoin, c'est la cheville ouvrière du studio Hergé, etc. » Ça donne une idée de l'ambiance au studio Hergé, puisqu'il y avait tout ce beau monde, hein, Jacques Martin, Roger Leloup, Bob Demort, et donc Gilles Chaillet, sous la direction du maître, mais chacun commençait à travailler un petit peu plus, je veux dire, chacun de son côté. Claude Moliterni avait quitté Dargo et venait d'entrer chez Casterman, et il avait envoyé une planche chez Casterman, dessinée par Gilles Chaillet, faisant croire qu'elle venait de Jacques Martin. Gros grattage de tête chez Casterman en disant « ça sort de quel album ça ? On ne sait pas ». La supercherie révélée, la planche est envoyée au créateur d'Alix, et là c'est Chaillet, Gilles Chaillet qui raconte lui-même. « Il avait mon essai dans la main, avec des coups de correction en rouge dessus. Il m'a dit « Vous ne dessinez pas très bien, mais ce qui est étonnant, c'est que vous situez mon monde comme si c'était moi qui le dessinais. Si vous acceptez d'être corrigé, je vais vous donner les premières pages d'un scénario de Lefranc, et si ça me plaît, on fera un album ensemble. » Ça a donc commencé comme ça. Parallèlement, il crée le personnage de Vasco, cette fois-ci dont il assure le scénario, aventurier de la famille Ptolémée, puissant argentier lombard au XIVe siècle. Une bande dessinée en costume, là aussi avec un souci du détail historique, mais néanmoins des aventures palpitantes qui l'emmènera au-delà de l'Europe. Il aura notamment pour maîtresse l'une des filles des derniers empereurs de l'Empire oriental romain, c'est-à-dire je vais y arriver. Enfin, ce qui maintenant est la capitale de la Turquie.
Parallèle. Constantinople.
Constantinople.
Non, la capitale.
Et c'est pas la capitale, en plus, je me suis planté. Voilà,
quand tu parles de la Turquie, demande à Duce.
C'est pour ça que j'aurais dû rédiger plus longtemps. Quand Jacques Martin quitte Casterman, Jacques Martin ne pouvait pas emporter le personnage d'Alix, et donc il crée la série Orion, dont il en confie à Gilles Chaillet l'écriture et dessin des carnets de ses différents personnages, des guides de voyage dans le passé des différents univers de Jacques Martin. Seulement tenir deux séries hyper réalistes en parallèle, qui plus est avec un autre auteur extrêmement exigeant, hein, je suppose que vous avez compris que Jacques Martin là-dessus est assez cassant, ça se terminera par une rupture en 1997, car Gilles Chaillet préférait logiquement travailler sur sa série. Le Lefranc, le Vol du Spirit, sera leur dernière collaboration en 1998. Gilles Chaillet se consacre plus à Vasco, mais parallèlement illustrera d'autres scénarios, comme le premier tome du Triangle Secret de Convard, ou un Tox, un polar contemporain de Olivier Mangin en 2007, sorti en 2002, pardon, excusez-moi, et en 2007, Vinci, une bio, écrite par Didier Convard encore. En 2007 toujours, il confie le dessin de Vasco à Frédéric Toublan, mais il continue à écrire ses scénars. Libéré de ses obligations avec Jacques Martin, Gilles Chaillet peut enfin s'attaquer à la Rome antique, domaine qui ne souhaitait pas concurrencer Alix, mais qui le passionne, qui l'habitait littéralement. Il créera en 2002 la dernière prophétie dans la collection Vécu chez Glénat, ce qui inspirera un travail de titan l'année suivante. Dans la Rome des Césars, une reconstitution graphique monumentale de la Rome du IVe siècle par un plan gigantesque. L'original fait 3,25 m sur 2 m de haut. Un truc absolument immense. 8000 heures de travail. Un monument de précision loué par les historiens. Gilles Chaillet nous a quittés donc mercredi dernier, et je garde le souvenir d'un auteur souriant, chaleureux, qui ne souhaitait pas qu'on lui fasse trop de compliments, car il considérait son travail, mais avec modestie. C'est vraiment un grand auteur de la bande dessinée franco-belge qui nous a quittés à 65 ans, un artisan absolument monumental. Au revoir Gilles, et peut-être que tu arrêteras Peut-être que tu lui diras ce que tu penses à Jacques Martin et à RG, à tous les autres. Peut-être que finalement, ben, tu resteras avec ton immense sourire chaleureux à encaisser. Je sais pas si l'un d'entre vous a lu justement un Vasco ou les Lefranc justement qui l'a fondu par la suite. Puisqu'il a tenu, si je me souviens bien, mais il en a fait une quinzaine sur le dessin vraiment archi précis, parce que quand même Jacques Martin c'est vraiment du petit cul de poêle de détails, et donc Gilles Chaillet avait cette pression énorme quand même pour essayer de reprendre la suite à côté. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé, ou si justement tu as lu un Vasco ou un truc à côté. C'est peut-être pas évident non plus, hein. Parce que voilà, Vasco, c'est quand même le bas Moyen-Âge avec les grandes périodes, les grandes pestes et tout ça.
Oui, mais comme j'ai lu tous les blueberries, tous les tanguis et les verdures, il n'y a pas de problème. Donc,
enfin bon.
Il en fait partie.
La veille, mardi dernier, c'est un autre grand de la bande dessinée, mais cette fois-ci, c'était pas un auteur, c'était plus un éditeur qui nous a quittés, Jean-Paul Mougin. Jean-Paul Mougin était un journaliste de télévision. Mais sa carrière a pris fin précocement car il a fait partie des journalistes qui ont manifesté en mai 1968 et donc qui ont fait partie des purges, hein, on peut parler vraiment de purges de l'ORTF. Il y en a eu qu'un qui s'en est sorti, c'est un certain Michel Drucker, parce que tous les autres sont retrouvés sur une liste officieuse des bannis.
Et Thierry Roland.
Et ils n'ont jamais été réengagés dans le service public, hein, jusqu'en 81. Tous étaient bannis, donc... Ils ont fait leur carrière à côté, soit dans les radios périphériques, soit dans la presse. Jean-Paul Mougin, lui, s'est retrouvé dans la presse. Plus exactement, il s'est retrouvé rédacteur en chef adjoint de Pif Gadget. Et c'est là où il fit connaissance de Mandrika, Gottlieb, Jean-Claude Forest, Paul Gillon. Et il fit traduire un auteur encore inconnu en France, Hugo Pratt. Prépublié dans Pif, le premier album de Corto Maltese, La Ballade de la Mer Salée, sortira chez Casterman. Succès commercial, succès critique, puisqu'il sera consacré meilleur album en langue étrangère au Festival d'Angoulême en 75, une année riche pour la bande dessinée dite adulte, car seront créées des revues Metal Hurlant, Fluide Glacial et Circus, aux côtés de Charlie Mensuel, qui existait déjà depuis 69, et L'Écho des Savanes, lancé en 72. Le directeur littéraire de Casterman, Didier Plateau, devant le succès de l'album d'Hugo Pratt, invite donc Jean-Paul Mougin à le rejoindre chez Casterman pour gérer cet auteur. En 1977, ils lancent ensemble la mythique revue à suivre, avec des parenthèses, autour du titre « Encore une revue de bande dessinée pour adultes ». Mais plus sur un côté littéraire, plutôt que sur les excès du « Sex and Drugs and Rock and Roll », qui là sont plus confiés aux autres revues. La maquette est signée Étienne Robial, avec un modèle de simplicité, et le titre de la revue, entre parenthèses, du roman graphique avant la vague graphic novel, feuilletonnant, avec dès le premier numéro. Alors attention à la liste des auteurs qui ont été publiés dès le premier numéro. Hugo Pratt, Tardy, Jean-Claude Forest, Claude Auclair, Comès, François Scutton, Benoît Peters, Munoz, Sampaio, Manara, Régis Franc, Socal, Philippe Guéluc, Ted Benoît, Loustal, Jean-Claude Denis, Frédéric Bézian, Desberg, Joanne Demort, le groupe Bazooka, Cabane, Pétillon, Tito. 34 ans après.
C'est que des auteurs qui ont été publiés dans le premier numéro, ça?
Ouais. Et là, tu te prends.
Quoi, des gens dont on n'a pas entendu parler par la suite.
Quand il est sorti, ça a dépoté, quoi. Disant qu'on s'est dit, waouh. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la bande dessinée adulte, mais au sens de majeur. C'est-à-dire, c'est. On ne cède pas de la bande dessinée pour enfants, mais on ne cède pas non plus dans de la provoque à tout prix. Ce qui était quand même un gros changement vis-à-vis de toutes ces revues qui étaient nées après mai 68.
Ouais, non, mais si tu veux, la différence qu'il y avait et qui était notable, c'est que justement, il faisait partie des seuls à proposer des trucs à suivre, justement, le schéma feuilletonnant. Alors que toutes les autres, hein, si tu regardes celles que tu as citées, Fluide Glacial, Charlie Mensuel qui faisait également un petit peu dans la provo,
ouais,
dire.
C'était des histoires complètes.
Ouais, super, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre du sexe, on peut mettre de la drogue, du rock and roll dans nos bandes dessinées, on n'a plus de censure, la censure qui existait encore dans les années 60, hein, on se rappelle le bannissement
Balle tragique à
Colombey, pour Harakiri, pour Charlie Hebdo. Et là, bon, bah, ok, ils y vont à fond les manettes et tout. La différence, c'est que à suivre, bon, c'était plus dans un domaine, on va dire justement un petit peu littéraire, on va dire, de la bande dessinée, considérée comme un art adulte majeur et
merci,
reconnu.
Tu viens de reprendre ce que je viens d'écrire.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça, hein, vraiment.
Tu me voles le prompteur.
Attends, je peux essayer moi aussi. Attends.
On est en bas du très gros paragraphe. 34 ans après, ben le casting fait encore tourner la tête. C'est dire franchement le, parce que c'était tous des auteurs qui ont tous débuté, hein, à l'époque. Si Forrest avait déjà fait dans Pif, je veux dire Ted Benoit, on le connaissait pas encore. Frédéric Bézian, il a débuté. Joanne Demort, c'était le fils de Bob Demort, mais là mais aussi.
On connaissait Munoz et Sampaio, Manara, Régis Franck quand même un petit peu. C'est quand même des.
Mais justement dans un côté adulte, alors qu'il venait de Pif Gadget, qui était
qui était
vraiment pour enfants, et où la publication de la première aventure Corto Maltese détonnait un peu.
Ouais, ouais, mais bon, il faut dire que la plupart, même de ceux qui
participaient... Faut pas oublier qu'il y avait la censure sur la presse enfantine encore, et que,
oui, justement.
Il y a eu des planches de que Hugo Pratt a dû remodeler pour la publication dans Pif.
Eh ben, c'est pas compliqué, de toute façon, à l'époque, ces revues, quand tu allais les acheter dans les kiosques, tu les trouvais tout en haut dans les étagères, là où maintenant on range les revues de cul, tu vois, quoi. Bon, disons, c'était pareil, un petit peu caché. Planqué derrière des trucs comme ça, quoi.
C'était la revue honteuse.
Et il faut dire aussi qu'à cette époque-là, les dessinateurs qui participaient à ces revues avaient également d'autres boulots dans d'autres revues un peu plus sérieuses où ils pouvaient nettement moins se lâcher. Donc, la sortie de ces mensuels ou de ces bimensuels, pour eux, c'était l'occasion aussi un petit peu de se lâcher, quoi, au niveau créativité et puis, bon, délire aussi, quoi.
Parce que c'est vraiment la ligne éditoriale que Jean-Paul Mougin va donner à ses auteurs, c'est pagination libre, thème libre. Vous avez vos scénarios, vous en êtes tout à fait libre. La seule chose, c'est que pour commencer, on sera en noir et blanc, à part la couverture en couleur, mais au fur et à mesure, les pages couleurs vont rentrer, hein, assez marginales d'ailleurs, durant les années 80. Mais en tout cas, à suivre, aura un succès foudroyant, immédiat. A vraiment instauré immédiatement les bases par la suite de ce qui allait devenir les revues comme Vécu chez Glénat et tous les autres. Ça a vraiment été de ce côté-là retenu par tout le monde comme étant vraiment la grande idée. C'est enfin les auteurs ont la place pour s'exprimer. Casterman, qui dans la BD d'ailleurs n'avait à l'époque que deux titres vraiment majeurs, Tintin et Martine. Donc c'était de la jeunesse et c'était un petit peu vieux. Casterman à côté vivait surtout principalement en tant qu'éditeur des annuaires en Belgique, puisque Casterman au départ c'est une maison d'impression, hein, plus que d'édition. Et là tout d'un coup ça devient un éditeur d'avant-garde et de référence dans la bande dessinée qui va s'installer d'une manière définitive sur ce marché-là. Les années 80, eh ben, ce seront des années flamboyantes. Pour à suivre. Début des années 90, par contre, eh ben, on aura la disparition de pratiquement toutes les revues de bande dessinée par des affections du lectorat, lequel préfère finalement avoir des albums et des collections pour pouvoir profiter pleinement, je veux dire, de ces séries-là, sachant que les prépublications d'à suivre ont toujours été d'une pagination variante, donc on voyait les épaisseurs des albums qui étaient prépubliés dans à suivre qui arrêtaient pas de varier. De ce côté-là, ben malheureusement, les revues vont en pâtir et à suivre fermera en 1997 après 239 numéros, comme il avait commencé, par une couverture de Tardy. Mais c'était 20 années qui ont montré au grand public qu'une bande dessinée adulte au sens mûr pouvait exister et était là, ben, finalement pour vraiment être présent dans le marché. La fin d'une époque. Par la suite, Casterman sera racheté par Flammarion, lequel sera lui aussi boulotté par le groupe de presse italien Rizzoli. Jean-Paul Mougin verra la fermeture de à suivre un peu comme un échec personnel et se retirera de l'édition, une retraite un petit peu forcée par un cancer de la gorge, tribut à payer pour sa consommation de cigarettes. Jean-Paul Mougin nous a quittés mardi dernier. C'est quelqu'un qui n'était pas connu du grand public, mais qui vraiment a sculpté le paysage actuel de la bande dessinée franco-belge et aussi ce qu'allait devenir par la suite la nouvelle manga, puisque c'est un peu à son initiative qu'a été lancée, je vais dire, la bande dessinée manga adulte en France, notamment via un certain Frédéric Boilet. Thank you. supplément week-end sur Radio FMR. Les news ont été lourdes, alors on vous propose un petit break avec Björk, I Miss You. Je sais, c'est pas une nouveauté, c'est dans l'album Post. Björk, I Miss You, sur Radio FMR 89.1 MHz. Ouh, je suis un petit peu fort, excusez-moi. Enfin, oui.
Je voudrais juste compléter, parce qu'on s'est tiré les cheveux hors antenne. En fait, on cherchait la cité des nuages dans Star Wars tout à l'heure, c'était la planète Bespin.
Ah, voilà.
Voilà.
Ouf. Ouf, l'honneur et force. Et sauf, il faut dire qu'on a eu quand même une partie news assez lourde et importante. Et on entame enfin les sorties de bande dessinée. On va commencer avec Les Quasi, sur un scénario de Val et dessin d'Olivier Neuré. Val signe ici sa première histoire chez Glénat. Donc Les Quasi, le premier tome s'appelle Un peu, beaucoup, passionnément. Une première histoire, mais pas n'importe laquelle, puisque la série va raconter les événements à peine romancés finalement de sa vie. Deux couples divorcés, chacun avec deux enfants. Dans les deux ex-couples, les femmes ont des emplois stables, tandis que les maris galèrent au niveau revenu. Michou était séparé de Bernard depuis 2 ans, un baba très cool, adepte du trekking dans les pays lointains et les séminaires de méditation, mais franchement profiteur. Les parents de Michou ne peuvent rien lui refuser et l'individu semble extérieurement d'un sans-gêne assez envahissant. Anse venait de rompre avec Jim, intermittent, qui a dû, Jim a dû revenir vivre chez sa mère. Et les rencontres entre Anse et Jim sont assez orageuses et pour ne pas arranger l'humeur de Jim, sa mère est absolument envahissante, insupportable. Résultat, il noie un peu son humeur dans l'alcool. Mais lors d'une fête d'école, Michou et Jim se rencontrent par hasard. Il y a quelque chose qui commence à se passer entre eux. Et malgré les manigances et autres impairs commis par les 4 enfants, ça ne va pas réussir à empêcher la construction d'un nouveau couple. 2 parents divorcés, 4 enfants qui oscillent, les ex dont on n'est jamais sûr, dont tout est bien rompu là-dedans, les grands-parents qui s'en mêlent, rien ne sera facile, rien ne sera évident, et le grand bonheur n'est jamais sûr d'être là au rendez-vous. La lecture est fraîche, touchante, le style graphique dans une ligne claire, aux couleurs débordantes, comme les sentiments qui hantent les pays et les personnages. Le graphisme d'Olivier Neuré est agréable et correspond bien au thème. Or, c'est justement un sujet casse-gueule, surtout dans un domaine aussi brisant émotionnellement. L'album est lisible par tous, sans aucune vulgarité, donc aussi par les enfants. Et Kasi est une nouvelle série qui se laisse franchement lire un peu, beaucoup, passionnément.
Alors il faut juste rappeler ce que c'est, pourquoi ça s'appelle les Kasi, puisque c'est les enfants qui s'appellent les Kasi frères et sœurs, puisque ce sont les frères et sœurs de
demi-frères, demi-sœurs.
Voilà, etc. du compagnon ou la compagne de leur maman ou de leur papa. Donc voilà, c'est les Kasi. Et en fait, ce qui frappe, c'est que au départ, tu penses que c'est du point de vue des adultes en fait que cette histoire est racontée, puisque ça démarre sur une rencontre fortuite entre Jim et Michou, mais finalement ça déborde ensuite. Ça change de point de vue et ça passe du point de vue des gamins. Donc c'est vrai qu'il y a un centre d'intérêt qui est déplacé, tu vois que les adultes ils sont emmerdés parce qu'il y a les ex qui reviennent et tout, donc il y a le gars qui s'en gêne, c'est absolument déplorable, voilà, et puis finalement après à la fin ça finit sur, on peut pas dire comment ça finit, mais on voit que c'est pas simple, hein, et c'est du point de vue des gamins, et voilà, donc moi j'ai bien aimé ce point de vue qui change en fait. Je m'attendais pas à ça.
Puis le graphisme qui est un peu proche, je vais dire, de Dupuis et Barbarian quand le journal d'Henriette et Monsieur Jean, et justement ces aventures du quotidien, c'est proche en fait, hein, de la nouvelle manga, hein, dans l'idée, même si ça n'importe absolument pas l'étiquette. Mais justement de ce côté-là, ça permet de mieux expliquer peut-être à les enfants certaines situations. Moi, je l'ai trouvé vraiment touchant, en tout cas dans l'idée, c'est que tout le monde peut y aborder sans trop de problèmes. Et finalement, personne n'est tout blanc, tout noir, mais chacun veut essayer d'arranger un petit peu les choses. Et ça, c'est quand même assez flagrant.
C'est quand même léger, tu rigoles, c'est pas du tout du point de vue...
Ah, t'arrêtes pas de rire.
Ouais, en même temps, tu rigoles pas aux éclats, mais tu souris beaucoup. C'est en plus les remarques des gamins, voilà, il y a des personnages en couleur aussi, et puis tu sens que ils en font pas des tonnes non plus, et que, comme tu disais que c'était du vécu, tu le vois aussi. Alors, c'est une BD, franchement, à lire. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a une suite après de prévu ou...
Normalement, oui, puisque...
c'est le numéro 1.
Oui, voilà, c'est... En fait, c'est ma question. Je sais plus s'il y avait marqué numéro 1 ou pas, en fait, voilà, c'est ça.
Si, sur la tranche.
Voilà. Val au scénario, Olivier Neuret au dessin, les Kasi, tome 1, un peu, beaucoup, passionnément, c'est chez Glénat. C'était il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, il y a eu une grande catastrophe.
Oui, et bien il y a 6 mois, c'était le tsunami au Japon.
Avant, il y a eu le grand tremblement de terre d'une magnitude 9.
Oui, et donc le magnitude 9, c'est le titre d'un artbook qui sort aujourd'hui, qui a été préparé il y a quelques mois déjà, dont l'idée avait été lancée par Jean-David Morvan, qui nous en avait parlé dans l'émission. Qui t'en avait parlé à toi et dont tu avais diffusé la conversation.
On a failli l'avoir en direct, effectivement, 48 heures après les événements. Et finalement, donc, ça a été diffusé la semaine suivante en préenregistré. Et c'est vrai qu'il avait dit, moi, j'ai envie de faire quelque chose à mon échelle. J'ai envie de montrer, que l'on montre qu'on les soutient et qu'on est avec eux.
Voilà, il disait, en plus, avec le carnet d'adresse qu'il avait, ça aurait été dommage de passer à côté de témoignages graphiques de toute la communauté d'illustrateurs ou de dessinateurs qui auraient pu faire quelque chose. Et c'est ainsi qu'en s'associant avec Sylvain Drunberg et donc il leur fallait une plateforme pour recueillir les illustrations donc qui sont adressées à la communauté Café Salé qui est gérée par Kness, Made et Nicolab. Et avec le travail d'éditeur d'Ankama derrière, ils ont réussi à créer, à recueillir une quantité astronomique d'illustrations d'auteurs de tous bords. Hein, c'est des dessinateurs de BD, des illustrateurs, des amateurs, des professionnels, etc. Et dont l'intégralité des fonds récoltés par la vente de cet artbooks vont à Give to Asia, c'est une association.
Oui, derrière c'est la Croix-Rouge si je me trompe. Voilà. C'est la Croix-Rouge japonaise.
Donc il faut savoir que ces illustrations ont aussi été imprimées et dont il y a eu ils ont fait l'objet d'une vente aux enchères à Paris, dont également l'intégralité des fonds est allée à Give to Asia. Donc il y a eu un site de créé qui s'appelait cafésalé.net/tsunami où vous pouvez voir toutes les illustrations qui ont été postées. C'était une sélection bien sûr. Il y avait des messages des gérants de Café Salé qui expliquaient où l'entreprise en était. Ils ont publié des photos quand ils ont reçu le bouquin, etc. Là ils ont publié la liste exhaustive des auteurs. Et sur le Facebook de Jean-David Morvan, le scénariste a publié l'intégralité des illustrations qui ont été reçues par l'équipe. Donc histoire de montrer que personne n'a été oublié et même si beaucoup d'illustrations n'ont pas été gardées.
Enfin, il voulait vraiment que ça soit un témoignage ouvert. Et voilà, là-dessus, il a pas voulu faire de sélection. C'était vraiment son idée de ce côté-là. Un peu comme il l'avait fait auparavant, mais d'une manière beaucoup plus fun. C'était le monde au balcon où chacun prenait en photo. Où là, c'était des photographies. Là, c'était une idée. C'était une œuvre d'art graphique de témoignage. Et peu importe que c'était des pros ou des non-pros, d'où ils venaient, quels étaient le style.
Voilà, alors après évidemment ça c'est comme les artbooks édités par Café Salé, on retrouve tous les styles graphiques, chacun à son niveau. Donc on a beaucoup d'auteurs qui sont connus, donc on voit il y a tous les auteurs qui sont habitués à Café Salé qui sont là aussi, mais on a également Boulet, Bengal, Denis Bajram, Benjamin Lacombe, Kaza, Hiroyuki Oshima, Nacho Fernandez qui a fait le travail de l'horoscope, Toru Terada. J'en passe beaucoup et également alors il y a pas mal de travaux autour du drapeau japonais, donc ce rond rouge qui il y a beaucoup de travaux plastiques dessus. Il y a aussi des témoignages avec des scènes touchantes sur scènes sur au Japon avec des ruines et tout, mais ça sombre jamais dans le misérabilisme où on montre jamais la douleur ou des cadavres ou des trucs comme ça, tu vois, c'est de l'ordre du poétique.
Étonnamment oui, ça a été vraiment sur l'idée de l'hommage au Japon qui faisait fantasmer les gens par les œuvres graphiques et tout, et du coup justement c'était cet hommage plus à cet univers, comme quoi il devait continuer.
Et en plus il y a la culture japonaise au niveau graphique est super reconnue, donc il y a plein d'hommages à la culture japonaise. Il y a des femmes en tenue traditionnelle, tu as des mains de, t'as un hommage au Super Sentai, au robot géant avec la main de Goldorak, t'as des hommages à Totoro, t'as des peluches kawaii, tu vois, j'ai fait toute une liste, t'as des yokai, t'as des samouraïs, il y a Boulet qui a fait un samouraï contre une vague déferlante en aquarelle.
Qui était un hommage à Okusai d'ailleurs.
Oui, voilà, et puis évidemment la vague d'Okusai est super reprise dans plein d'illustrations, donc voilà, il y a plein de détournements de la culture japonaise, et moi ça m'a fait penser aussi aux illustrations des comics, comme on en parlait la semaine dernière, des super-héros qui se recueillaient sur Grand Zero. Là on voit, c'est comme si Totoro en fait se recueillait
sur la fissure.
C'est la
même chose, c'est Carta 6, hein, voyez, voilà. C'est vraiment de ce côté-là, c'est-à-dire l'imaginaire qui rend hommage au réel, c'est vraiment impressionnant.
Voilà, c'est pour montrer aussi que derrière l'effet Cool Japan avec les cosplays et tout, il y a aussi un peuple derrière qui a été touché. Et donc les gens qui sont fans du Japon aussi, ils utilisent cet imaginaire-là pour le détourner. Là, l'artbook coûte 30 euros pour un artbook.
Qu'il est impressionnant. Hein.
Ah, oui.
C'est un cartonné, il y a quoi? Il y a bien, à vue de nez, 250 pages.
Je ne m'en rappelle plus comment il y a d'illustrations. En tout cas,
bravo.
250 pages. Pour un artbook, franchement, 30 euros, c'est donné. Ah, et ouais. En plus, si vous les achetez, ça va intégralement pour les sinistrés japonais. J'ai entendu dire sur Twitter déjà qu'il y avait pas mal de ruptures de stock dans les librairies.
Donc, ça m'étonne pas parce que c'est vraiment un très très bel objet.
Voilà, et bon, évidemment, tout le savoir-faire de la communauté Café Salé est allé là-dedans, puisqu'ils ont, ils sont habitués maintenant, ils en sont déjà au 5e tome des artbooks Café Salé, donc voilà, c'est rodé. Il y a une préface de Sylvain Reberg et de Jean-David Morvan.
Et... l'impression est impeccable, ça, il n'y a rien à redire, donc c'est vraiment, ça change justement de la, c'est-à-dire, on a vu une bonne partie de ces dessins hein, sur le net, sur écran, mais là, en papier.
Et là, je crois que la postface, je ne sais plus qui c'est, du sport, si tu peux juste regarder qui c'est qui l'a signé à la fin.
Ce blanc vous est offert par le supplément week-end. Allez,
non,
il va y arriver.
Il...
Par Pierre Christin.
Voilà.
Ah, punaise. Ah oui. Ouais, ok.
Voilà, Magnitude 9 qui vient de sortir. Et donc voilà, vous pouvez...
Alors, on est obligé quand même de faire un legal disclaimer, comme on dit, puisqu'il y a eu une rupture de neutralité, puisqu'il se trouve que Thomas avait fait un dessin, et le dessin a très vite été accepté par Jean-David Morvan, parce que tu avais été assez réactif, et s'est retrouvé dans le artbook.
Ouais.
Donc,
voilà.
Donc numéro de page, voilà, peut-être, hein, pour ceux qui...
Bah, c'est... Voilà,
vous chercherez.
Juste à côté d'un dessin concernant l'équipe de rugby japonaise.
Ah ouais, tiens.
Ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu le dessin. Quoi.
Et il y a eu une expo qui a été faite au Salon du Livre de Montpellier et qui ensuite a été montée pendant Japan Expo, où il y avait une dizaine d'illustrateurs japonais et une dizaine d'illustrateurs européens qui se faisaient face et qui se répondaient. Et donc, ce sont des illustrations qui ont été faites pour ce artbook. Et figurez-vous qu'il y en a un qui avait passé complètement à côté alors qu'il est dedans.
Ouais, ben j'ai recueilli les photos.
Thomas a été exposé et quand on voit qui c'est qui est en face, il y avait des mecs de Bakuman juste en face de toi. Comme ça, tranquille,
ouais,
cool.
Tranquille,
facile quoi.
Tranquille, je crois que t'es le seul amateur d'ailleurs dans le lot.
Ouais, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas Magnitude 9, des images pour le Japon, voilà, donc c'est bon. Chez Café Salink et vous pouvez, voilà, vous allez sur cafésalé.net, il y a un lien, sinon c'est cafésalé.net/tsunami et vous avez le lien vers le shop d'Ankama, vous pouvez voilà commander par internet, sinon la librairie classique, voilà.
Bande de salauds. Non mais en plus, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui s'est passé là en antenne, c'est que du sport qui me tend un bouquin. Je t'ai encore zappé en chronique. Non, on l'a fait la semaine dernière. Allez, hop. Chips et cacahuètes sur canapé.
Et les pizzas.
Popcorn. Et le tout dans son salon en Dolby Stéréo Surround sur un écran 16:9 puisque c'est une sortie de DVD, Thomas.
Ramène une canette.
De l'action ?
Ouais, de l'action, de la comédie, du Mexique, du désert.
De l'action.
Et des tarés. Ah, tu me fais plaisir.
Allons-y !
Alors, oui, aujourd'hui, rien que le titre, ça va vous planter l'ambiance. Kill Bobby Z.
Yes.
Voilà, ça fait vraiment série Z. Pas vraiment, mais déjà, je vais vous éclairer avec le casting. Alors, si je vous dis le nom du réalisateur, ça vous dira rien, c'est John Hersfeld.
Ouais, mais je crois que je connais parce que c'est un mec qui vient de la télé, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Il a réalisé des Starsky Hutch, il a scénarisé le...
Ouais, mais même plus récent, hein.
Oui, il a scénarisé le Running Man avec Shorty. et il a réalisé quelques films qui sont tout à fait oubliables, dont un...
Le Running Man avec Schwarzy. Eh merde, j'aurais dû vérifier alors.
Ouais.
Ah, comme quoi.
Alors, je vous dis le casting. Paul Walker.
Yes.
Laurence Fishburne.
Yes.
Olivia Wilde.
Yes.
Jason Fleming.
Oui. Yes.
Joachim de Almeida. Keith Carradine. Et voilà, disponible en DVD chez Metropolitan. Alors, Tim Kearney est
quand
un
même
ancien marine. Il a une vie de merde. Il est devenu petite frappe souffre-douleur en prison. L'agent fédéral Grouza, lui, propose de se faire passer pour un légendaire trafiquant de drogue mort dont il est le sosie afin de récupérer un vieil ami retenu en otage. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Eh non.
Sinon, il n'y aurait pas de film.
Bah non.
Alors, dans la série des films qui cassent pas des briques, mais qui flirtent avec la catégorie navet, et en préparant la chronique, je me suis dit, flirte avec la catégorie, maintenant j'en suis sûr, il y est dedans.
Danse avec les bouses.
Voilà, non, ça c'est sûr, j'ai repensé dans la voiture, donc c'est sûr, c'est un navet, on peut le dire. Voilà, donc de façon Paul Walker en héros, voilà. Eh ben, Kilbo Bized, il y a logiquement la place aux côtés de Bleu Profond, aux côtés de... sex crimes, enfin des trucs comme ça d'été avec un peu de sexy, un peu de meurtre, un peu de d'enquête. Voilà, sauf que là il y a des dollars qui sont dans des valises, il y a du désert, il y a des gunfights, il y a des abrutis avec des motards, des gangs de bikers, voilà. Enfin, ça vous plante l'ambiance. Ensuite, on a c'est loufoque. Alors déjà, si je vous dis Joachim de Almeida, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truand latino.
Bien sûr.
Si je vous dis Paul Walker, il fait toujours le bourlingueur avec le jean délavé, genre mal rasé, mais bon.
Et la chemise à carreaux.
Tout à fait.
Bien
voilà.
Sûr.
On a bon Laurence Fishburne. On est de plus en plus sûr que la saga Matrix. Eh ben, à part ça, il
ça
fait que
achevé.
Des bouses. Vous êtes que des bouses de toute façon. Et ben Olivia Wilde, bon toujours magnifique, numéro 13 dans Doctor House, je kiffe cette nana. Voilà, bref. Cinéma décomplexé, tu as une bière à la main, de la canette, des tacos.
Tout voilà. Va bien.
Sorti directement en vidéo chez nous.
Ah ouais,
oh
tout à fait.
C'est sans blague.
C'est surprenant.
Une fois que c'est parce que des fois on se prend des sorties direct ou vidéo, mais au cinéma. Hein.
Oui oui.
Alors, c'est aux États-Unis, c'est des TV et.
Bah là, ça voilà, ça sort en DVD. Il y a quelques promos sur internet. Je pense que c'est pour surfer sur le succès d'Olivia Wilde chez Dr House. Ils disent Paul Walker, Laurence Fishburne. Bon allez.
Bah oui, allez.
Ce serait con de passer
bah,
à côté, faisant un petit peu de promo. J'ai écrit ma chronique et puis finalement, alors je l'ai écrit hier. Et puis après j'ai essayé de repenser au film ce matin, c'était déjà brumeux.
En te rasant?
Ouais, en me rasant.
Tu pensais déjà être président en fait.
Ça. Ben en fait quand tu le lendemain et que tu sens déjà qu'il y a des souvenirs du film qui t'échappent, tu te dis c'est loin de J'ai rencontré le diable. Tu te dis ah c'est un film dont tu commences à oublier des trucs, c'est mauvais signe. j'ai relu ma chronique et puis je n'ai pas pu m'empêcher de mettre des lignes en plus parce que je me disais ça
c'est
pas
court.
La route. Donc j'avais mis ce film ne restera pas dans les annales mais réserve quelques moments plutôt drôles. Et là je me suis dit il faut des exemples et j'ai pas pu en trouver parce que sorti du contexte c'est en fait tu le racontes et c'est pas drôle, c'est juste dans le film.
Ouais.
Alors moi il y a un truc qui m'a vraiment fait rire, c'est que j'ai compris après que Keith Carradine dans le film, il joue un espèce de d'homme de main complètement improbable avec des moustaches qui tombent super loin, des rouflaquettes avec un blouson en cuir. Et j'ai capté aujourd'hui que Keith Carradine, c'était l'enquêteur Lundy dans Dexter. Et il incarne dans Dexter un mec crâne pelé, très droit dans ses bottes, très shakespearien et tout. Je me dis, mais c'est pas le même gars, c'est pas possible. Eh ben si. Alors voilà, c'est... Tu vois, en fait, c'est un film qui est porté par son casting, qui est pas vraiment roue libre, on peut pas dire qu'il cabotine, on peut pas dire non plus que ce sont des rôles qui sont marquants. Je trouve que le film fait le métier parce que on peut pas dire qu'on se fait chier dans le film, mais on peut pas dire que tu t'éclates franchement non plus. Donc voilà, en même temps, je dois dire que je suis assez fier de parler de ce film parce que je suis sûr qu'il y a pas beaucoup de radios qui parleront de Kill Bobby Z. En plus, l'histoire fait que on demande à un loser d'endosser la défroque d'un trafiquant de drogue qui est mort. Alors, le titre original est beaucoup plus parlant puisque ça s'appelle The Death and Life of Bobby Z, plutôt que Kill Bobby Z. Voilà. Bon, déjà, Bobby Z, un gars qui s'appelle Bobby Z.
Ouais, déjà. Ouais. Déjà, traduire un titre en anglais par un autre titre en anglais. Bon, on comprend pas trop, mais vraiment.
Ouais, okay. J'appelle ça refranchiser, tellement que c'est pour off, quoi.
Voilà. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, on va pas atteindre les lourdeurs des films glauques qu'on a eu la semaine dernière. On va faire un petit film léger pour l'été. Voilà, Kill Bobby Z, la ma chronique est finie, c'était assez léger.
Pas mal.
Cette semaine, j'ai mis dans les liens, si vous allez sur le site suppléantweekend.fr, vous allez dans nos chroniques, j'ai mis un lien, c'est 6 choses que l'industrie du cinéma ne souhaite pas que vous sachiez, notamment sur les conditions d'exploitation, etc., comment on impose certaines choses, comment on introduit la faillite programmée d'un film pour ne pas payer d'impôts dessus, alors qu'il est super rentable et tout le reste. Et au milieu, il y a une des choses qui est importante, c'est les fake reviews, donc les fausses revues. Je tiens à signaler que quelques heures après que j'ai publié ce lien, je me suis rendu compte qu'il y avait un auteur d'une BD qui avait repris un extrait de ma chronique pour l'illustrer en mettant Supplément Week-end. Je trouvais ça sympa.
Ah, c'est mais malheureusement, tu l'as encadré.
Malheureusement, c'était juste après que j'avais mis ça en lien, et c'est extrêmement intéressant. C'est par exemple comment on peut raccourcir une chronique qui par exemple dit
alors, par contre,
hysterical
attends.
Overproduced and surprisingly entertaining en hysterically entertaining.
Alors déjà faut replacer dans le contexte, qu'est-ce que c'est qu'une review? En fait, c'est la citation d'une critique qui est utilisée dans la promo d'un film dans une affiche.
Voilà. Donc, sauf que voilà. Des fois, on fait la chronique, les affiches sont faites 2-3 mois avant que le film sorte réellement au cinéma, et des fois les chroniqueurs ne l'ont pas vu, c'est-à-dire par exemple les chroniqueurs des quotidiens en France le voient même pas 3-4 jours avant.
Les critiques spécialisées.
3-4 jours avant la sortie, et les hebdomadaires, les grands hebdomadaires, même pas 15 jours avant. C'est très très rare quand même que quelqu'un puisse le voir suffisamment tôt. Même Cinélive et tout ça, des fois ils chroniquent des films, ils l'ont pas vu.
Cinélive.
Oui,
pas mal.
Oui, parce que c'est Frenchy. c'est franchi. Alors on parle notamment de la saga de Earl Dittman, qui est le film critique et directeur de publication d'une publication qui s'appelle Wireless Magazine, qui n'est disponible ni sur papier ni sur le web. En fait, qui est distribué à une centaine d'exemplaires dans des cinémas dans un cinéma en fait au Texas, mais ce type-là, chaque fois qu'il y a un film dont on doit faire l'affiche, c'est t'as une chronique, t'as une tagline pour tel truc, ah ouais, il est comme ça, et donc on met sa citation. Il y a même beaucoup plus drôle, David Manning, qui en fait est un journaliste complètement fictif de Sony, créé par l'équipe commerciale de Sony Pictures, et qui en fait n'a jamais existé. C'est le gros problème, c'est qu'il a jamais existé, mais que Sony Pictures s'est amusé à faire une bio et à la mettre dans la Wikipédia.
Oh, putain.
Comme quoi, il l'écrivait, si je me souviens bien, dans The Riggerfield Press, qui est par contre un vrai journal. Et il y a des gens qui ont appelé The Riggerfield Press. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me passer David Manning? On n'a jamais eu quelqu'un de ce nom. Ça a été le gros scandale.
C'est un complot.
Moi, je me souviens d'une affaire concernant la sortie de Men in Black ou Men in Black 2 à l'époque où j'étais abonné à Première. Ils en avaient parlé et la review en fait c'était aussi simple qu'efficace. Et le journaliste, le vrai article, c'était une critique négative qui disait en gros c'était bourrin et que la phrase c'était un moyen aussi simple et aussi simple qu'efficace d'attirer encore plus de spectateurs.
Pas mal.
Et donc là ils avaient fait un raccourci.
Sachant qu'en fait ils demandent des citations aux critiques en France, mais pour les quotidiens et les hebdomadaires, et ils leur disent bon, qu'est-ce que t'en as pensé, bon tel truc, ok je le mets, mais des fois l'article ils le font paraître juste avant la parution du truc, ils les écrivent pas à l'avance. Et là, donc des fois ils se souviennent ou non s'ils ont mis qu'il fallait qu'ils citent ça parce que c'est dans l'affiche.
Et oui, et puis ce sont des citations des fois qui ne restent même pas dans l'article fini. Alors
d'où le final de cette partie cinéma, Thomas, pour Kill Bobby Z. Qu'est-ce qu'un commercial va retenir ta critique pour la mettre en tagline de la jaquette du DVD?
Je dirais
puisque c'est une bouse.
Finalement, mais non, mais il faut que ce soit positif alors.
Et oui, du coup, il faut que ça soit positif.
Je dirais du film léger, je sais pas.
Il faut que ça soit dans ta critique. Une phrase, tu redis ta phrase et tu raccourcis le contexte.
Ah ouais. Bah, je sèche là. Je peux pas te dire. Je sais pas. Avec des. Ouais, non, je sais pas. Décérébrés, frais, rafraîchissants, je sais pas. Rafraîchissants. Allez, rafraîchissants, point exclamation, supplément week-end. Voilà.
Merci Thomas. Et donc, c'est sur cette note positive qu'on peut éteindre le lecteur DVD pour passer.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Oui, je sais, j'aurais pu passer un extrait Visiteurs du futur, puisqu'ils ont passé la finale hier, mais du sport, je suis sûr qu'il a trouvé mieux.
Bah ouais, de la série inédite.
Oh!
Eh ouais, malheureusement, c'est sur Canal+, c'est jeudi prochain à 20h50.
Oh, ils ont racheté Direct 8, ils vont bien remplacer Morandini par quelque chose.
Mais quand même, c'est du lourd, c'est du haut de gamme, et c'est du saison qui s'est achevée, mais qui n'a pas été reconduite par la NBC. Il s'agit de la série qui s'appelle The Event, série dans laquelle, eh bien, un type qui part à la recherche de sa femme se rend compte qu'il y a un complot majeur. Ah, dans quel monde vivons-nous?
C'est un petit peu
dans la veine de Lost, de mélanger à 24. C'est vraiment assez fouillé. Quand même.
En tout cas, les bandes annonces sur Canal+ sont très efficaces.
Ouais. Alors, c'est créé par Nick Waters, qui avait déjà participé à 4400, à Eureka, à Medium. Enfin, vous voyez un petit peu le genre du bonhomme, hein, puisque bon, c'est toujours plus ou moins dans le même style. Il n'y a pas de problème. Et je me suis renseigné un petit peu plus en aval comme ça pour savoir pourquoi ils avaient annulé cette série et tout
ça. Sur l'audience toujours.
Bon, c'est sur l'audience. De toute façon, il n'y a pas de problème, mais aussi parce que c'était une série haut de gamme dont chaque épisode coûtait la bagatelle de 2 millions, 2,5 millions dollars. Donc,
c'est le prix ratio moyen aux États-Unis.
Le ratio téléspectateur et coût moyen de l'épisode a fait qu'ils se sont dit bon, on va arrêter les frais.
On va peut-être expliquer rapidement. En moyenne, le coût moyen d'un épisode sur une grande chaîne, sur ce qu'on appelle le prime time, c'est en moyenne c'est 2 millions, sachant que la chaîne met 1 million. Après, le million restant, c'est le producteur qui essaie de se rattraper à l'étranger. Donc ça me semble un tarif encore relatif, quoi.
Ouais, mais enfin bon, OK. Alors, ce qui s'est passé, comme tout, comme toujours, quand c'est le même genre de série, tu sais, ces séries avec, il faut pas que tu loupes un épisode, sinon tu comprends plus rien et tout, quoi. Enfin, genre Lost, hein, vraiment, quoi.
Y a oui, Lost, 24.
Sinon, t'es bloqué, t'es perdu, c'est même pas la peine, hein.
Mais heureusement,
il y a les prix de vie. Oui, et donc il y a ce noyau de fidèles qui se crée, qui se dit ouais, mais putain, mais qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là, tu sais, la suite et tout, quoi. Non, j'ai joué au loto, ça marche pas, il y a que Hurley qui a gagné, merde, pas faire chier et tout, quoi. Et en fait, Sci-Fi États-Unis a essayé de rattraper le truc, il y a eu une super levée de bouclier de la part des fans, qui ont envoyé des mails, qui ont essayé d'inonder la boîte de...
Ouais, ils ont tenté de refaire ce qu'ils avaient fait pour Jericho.
Oui, et pour d'autres
pour
trucs.
D'autres séries, ouais.
Bon, ça a pas trop marché. Alors, pour l'instant, bon, y a pas trop grand chose. Mais il y a une première saison, complètement terminée. Et, Nick Waters, à un moment, il avait dit, il savait que la série, devait se terminer, qu'elle ne serait pas reconduite et tout, et il menaçait de laisser une fin ouverte pour la première saison, histoire de voir s'il pouvait pas rebalancer son truc autre part, ou pour mettre également un petit peu plus la pression sur les exécutifs de la NBC en leur disant tenez les gars, je vous laisse le bébé, démerdez-vous avec ça et tout, il y a pas de fin, c'est vous qui en subirez les conséquences. Alors dans cette série donc on retrouve bon un casting qui a tombé par terre, il y a pas de problème. Laura Innes, je te rappelle, Laura Innes, c'est la toubib avec la canne dans Urgence.
Ah oui, Krieger.
Oui, quelque chose comme j'ai pas cherché longtemps. Jason Ritter, qui est le fils de John et qui est donc le petit-fils de Tex. On a Blair Underwood, on a Lisa Vidal qu'on a vu dans Urgence, qu'on a vu également dans New York 911. Il y a Anthony Dale qu'on a vu dans Charm dans les dernières saisons, c'est un espèce de monstre qui revient, c'est un gamma qui s'appelle Gamma, un truc comme ça. Bill Smithrovich, le vieux de la vieille, et Zelko Olivanek,
toujours.
Tu vois, donc il n'y a pas de problème, je vous ai choisi les plus représentatifs en fait, parce que derrière il y en a encore d'autres qui sont pas mal, donc ça s'annonce quand même comme étant quelque chose de pas mal. The Event, donc c'est sur Canal+, à partir de jeudi prochain. 21h50. Nouvelle série inédite qui démarre. Bah, c'est en plus c'est ce soir et qui, à l'instar de The Event, n'a connu qu'une saison. Et pourtant, c'est une franchise. Et pourtant, c'est la franchise la plus rentable et la plus longue de la télé américaine. C'est bien entendu Law and Order. Ah, Law and Order. À Los Angeles. Los Angeles Police Judiciaire. Alors, c'est la première. C'est la première émission dérivée spin-off qui ne se passe pas à New York.
Et qui n'est pas tournée à New York. Puisque ils ont été.
Pas tournée à New York.
Du tout. Puisque.
Qui n'est pas produite par Steven Moshko.
Non, non, Dick Wolf.
Ah oui, Dick Wolf.
Dick Wolf.
Si, 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 si,
si, si, si, il est derrière.
Ah si. C'est une franchise.
C'est une, il est derrière.
C'est comme McDo.
Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu tant de séries policières qui sont faites à New York depuis les années 70?
Ah bah écoute, c'est pour
C'était parti d'une grève de policiers parce que New York était une ville en quasi faillite à la fin des années 60, début des années 70, et une longue grève, et des producteurs assez malins sont arrivés dans le bureau du maire et leur ont dit: on va payer tous les arriérés des salaires des policiers de New York, mais en contrepartie on veut la mise à disposition de la police du NYPD pour tourner nos films et nos séries. Et c'est comme ça qu'il y a une industrie cinématographique extrêmement importante qui est renaît à New York, mais dans le thème des polars, et notamment eh ben il y a eu Kojak, il y a eu toutes ces séries là etc. Et ça a continué, et justement ben Dick Wolf en a profité plus tardivement, hein, mais à profiter de cet accord pour tourner sur place.
Ouais, en tout cas, donc c'est la petite nouveauté. Alors, c'est également une série qui n'a duré qu'une saison.
Hein, bon, bah, ouais, elle n'a pas du tout convaincu.
Bon, ouais. Non, ça n'a pas du tout convaincu. Et de plus, il faut bien savoir que Law and Order, la série originelle s'est arrêtée. Hein, ok, déjà, il ne reste plus que New York Section Criminelle et le Special Unit. Et il y en avait une autre également qui avait duré une saison, c'est Law and Order Trial by Jury, Cour criminelle, New York Cour criminelle, qui a également marché qu'une saison, et puis hop, qui a dégagé. Mais ça fait rien, de la bouche même de Dick Wolf, et dit ok quoi, c'était une expérience qui était assez concluante et tout. Moi, il garde le côté positif de la chose et tout, même si ok quoi, sa franchise, elle est un petit peu en sursis pour le moment. Il y a que à la limite encore Special Victim.
Il était à une saison sur sa franchise principale quand même de battre le record. Donc,
non mais même si Special Victim Unit a encore des taux de téléspectateurs vraiment très très convaincants, donc il y a pas de problème, et encore bien programmé en plus, hein, c'est ça qui est assez intéressant. Je crois que c'est programmé le mardi ou le mercredi à 10h du soir, un truc comme ça, donc c'est quand même une bonne case horaire, il y a pas de problème pour cette. Alors ce Los Angeles Police Judiciaire en plus n'a duré qu'une saison, et en plus a eu un casting qui a été modifié au fur et à mesure de la saison. Il faut savoir que bien sûr c'est développé par Dick Wolf, mais également surtout par Blake Masters, qui s'est occupé de la partie justement Los Angeles du dispositif, Blake Masters, qu'on a déjà vu surtout s'occuper de la série Brotherhood. Alors, tout au départ, c'est toujours la même chose, hein, de toute façon. Hein, alors le couple d'inspecteurs, plus le couple de district attorney, c'est-à-dire les juges de l'accusation, ça
change pas. T'inquiète, on s'est formé avec l'affaire DSK.
Voilà, il y a pas de problème. Non, mais là, on est à Los Angeles, ça marche plus.
Law and Order, DSK.
Alors, au départ, le duo de flics, c'était, Koresh Toll et Skeet Ulrich. Mais Skeet Ulrich, au moment, il se dégage, il commence à en avoir marre et tout, parce que justement, à mi-saison, il y a déjà des bruits qui courent comme quoi, il n'y aura qu'une saison, que ça durera pas plus longtemps et tout, donc, Skeet Ulrich se dit bon, ok. J'ai d'autres projets, j'ai le cinéma et tout, donc je laisse tomber. Comme dans le deuxième épisode de la saison, eh bien arrive un certain district attorney qui est Alfred Molina, donc pas n'importe qui.
Ah ouais.
Qu'on avait déjà vu dans un épisode double de New York Section Criminelle, où c'était excellent, c'était un des meilleurs épisodes de la série. De toute façon, avec Alfred Molina, qui au départ est district attorney, et qui au départ district attorney qui est ancien flic. Et qui, au départ de Skeet Ulrich, va reprendre le rôle de Skeet Ulrich, c'est-à-dire démissionner dans la série de son rôle de district attorney pour rejoindre le camp des inspecteurs.
C'est bizarre.
Voilà.
Il a beaucoup à y perdre au niveau salaire.
Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, parce que en tant qu'assistant district attorney, il touche pas énormément non plus. C'est le patron qui lui touche. Mais sinon, les autres, sont des employés, donc touche pas énormément quand même. Alors, outre ce petit changement de mercato d'hiver, on va dire, il y a également Terrence Howard qui, lui, arrive justement en même temps pour remplacer Alfred Molina au bureau du district à Tournai. Et même vers la deuxième, dans le deuxième tiers de la saison, on voit arriver de New York Alana de Garza, c'est-à-dire le procureur là, à la district à Tournai, Ruby Rosa, hein, qui officiait dans la série de New York, mais qui doit venir à Los Angeles pour s'occuper de sa mère qui est malade.
J'ai mal à la tête là.
Voilà. Outre donc ces percées, il y a également Rachel Ticotin qui va jouer le rôle de la patronne du lieutenant. On a également
Rachel Ticotin, c'est la brune dans Total Recall.
Yes, voilà. Et c'est elle qui va être la patronne des flics, si tu veux. On a également Peter Coyote, Terry Polo, mais ça c'est dans le deuxième épisode uniquement. Dans le premier épisode, on a également Regina Hall et Daniel Pennebaker. Le premier épisode c'est ce soir sur TF1, donc à 23h20. Bienvenue à Hollywood. Et le deuxième s'appelle Vivre l'enfer. C'est Los Angeles Police Judiciaire. C'est ce soir donc sur TF1 à partir de 23h20. Et demain soir, il va falloir veiller très très tard pour avoir le droit de regarder en direct les Emmy Awards 2011. C'est demain soir, ouais, demain soir à 1h du matin, 1h du matin sur Série Club en direct.
Alors les Emmy, c'est quoi, c'est les séries, c'est ça?
Les Emmy, c'est la télé.
C'est la télé, ouais. C'est-à-dire, c'est 19h pratiquement sur place. Heure de New York.
Bah ouais, un truc comme ça quoi. Enfin bon, 19h, 20h, un truc comme ça quoi.
Ouais, mais c'est vrai que c'est cérémonies qui sont assez longues, hein, qui font la soirée complète sur une chaîne normalement, si je me trompe, donc ça dure 3 heures. Hein,
ouais, ça dure 3 bonnes heures, hein, pas de problème, parce qu'il y a pas que les grosses catégories, c'est-à-dire meilleure série dramatique, meilleure série comique, meilleur premier rôle, meilleur second rôle,
meilleur coupure publicitaire, meilleur éclairagiste.
C'est vraiment tout, hein, c'est-à-dire même les métiers techniques, comme on va dire, dans le cinéma sont récompensés, donc même à la télé, donc il y a pas de problème. Il y a des émis un petit peu à l'appel, pas autant que les Oscars d'ailleurs, mais enfin bon, c'est quand même pas mal. Alors ça vaudra le coup, surtout parce que la MC de ces Emmy Awards 2011, c'est Jane Lynch, ouais, sous Sylvester dans Glee. Ah, et là je sais que pour tous ceux qui regardent Glee, ah bah ils vont se jeter devant ces Emmy Awards parce que ça risque d'être relativement passionnant. Quoique, bon bah ok, hein, on sait que c'est des textes qui sont écrits à l'avance et tout ça quoi. Mais je pense
30 secondes de remerciement, pas plus.
Ouais,
on lance l'orchestre.
Elle en profitera quand même pour balancer quelques petits trucs assez sympas de toute façon.
Ouais, parce que les audiences de ce genre de grands événements sont en chute libre à tel point que elles risquent de disparaître en fait des grilles des grandes chaînes hertziennes. Donc ils ont essayé de renouveler, en général ils mettent des gags de plus en plus forts une chaîne, t'as des stars d'autres chaînes qui participent et tout. Donc je crois me souvenir qu'il y avait Conan O'Brien qui avait fait une cérémonie des Emmy où il traversait une vingtaine de séries dans son intro.
On devrait le marquer ça, les gimmicks récurrents et tout. Conan O'Brien, il faut le marquer aussi quoi, tu vois, un petit peu comme Nip Tuck.
Ouais, tout ça parce que toi tu préfères CBS le soir.
Non mais je te rappelle qu'il a parlé de No Life tout à l'heure.
Ouais, ta gueule.
Ouais, non mais ça c'est normal.
Et
non,
il faut avoir des emmerdes, arrêtez.
Et il faut savoir que Jane Lynch, eh bien qui joue donc le rôle de Sue Sylvester, est nommée hein, donc pour dans la catégorie meilleure actrice de second rôle dans une comédie. Et la grosse tendance cette année, hein, c'est bon plus ou moins le conservatisme. Alors il faut noter également que Glee n'est plus nommé comme étant meilleure série comique, mais que par contre il y a 3 acteurs de cette série ou actrices qui sont nommés dans différentes catégories. Et comme dans Glee, si vous voulez, il n'y a pas de premier rôle puisque c'est un groupe. Il n'y a pas de premier rôle, donc ils sont nommés dans des catégories second rôle. Sinon bon bah ok, il y a Mad Men qui est bien en lice, Boardwalk Empire qui est bien placé également, un petit peu de The Event, mais très très peu hein, de toute façon dans une ou deux catégories. Voilà quelles sont les tendances. Et avec par contre au niveau des distinctions personnelles, beaucoup de nominations, ce qui concerne Modern Family, cette série qu'on peut voir sur Paris Première tous les dimanches soirs. avec Ed O'Neill, avec Sofia Vergara, et puis tous les autres et tout. Il y a même une catégorie de une catégorie où sur les 6 nominations, il y en a 4 qui sont pour des acteurs ou actrices de Modern Family. C'est pour vous dire que mon bokeh, ça cartonne. Ça, c'est dans la veine comique, bien entendu. Donc les Emmy Awards, c'est demain soir à partir de 1h du matin sur Série Club. On a également en saison inédite, bien Medium qui démarre ce soir sa 7e saison, c'est sur M6 à partir de 20h45.
Je t'avais dit, je monte le son justement quand tu changes de sujet, c'est pour que tu reprennes ta respiration. C'est pas bien que tu fais de l'apnée là.
Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux quoi. Alors, comme j'avais pas envie de me casser la nénette et d'être trop roboratif, je me suis dit je vais vous trouver des films en noir et blanc à la télé. Donc c'est sûr qu'il y en a pas trop, hein, comme ça c'est vite vu. Il y a pas de problème. Alors qu'est-ce que tu vas me trouver? De la musique de Charlot, Buster Keaton, Max Linder, Max Sennett.
Non mais laisse-moi le temps.
Vas-y. Alors, les films en noir et blanc, et ça commence pas aujourd'hui, il y en a pas. Non, laisse tomber, il y a pas de noir et blanc.
Bon,
ça commence
soir, rien.
Demain, demain sur Ciné Plus Star, avec un film qui s'appelle Colors et qui est en couleur. Seulement, c'est des blacks et des blancs. Hein.
Y a pas de problème. Et ça a rien à voir. En plus, c'est du hip hop en plus à bande son.
Ouais, mais il y a des blacks et des blancs dedans, quoi. Donc, je me suis dit que ça collait.
Voilà,
façon,
donc je me fais baiser en mettant bon la musique du ciné club.
Et en plus, c'est un bon
c'est
film.
C'est lamentable.
C'est un bon film de Denis Hopper. Sean Penn, Robert Duvall, Maria.
Non, on est d'accord, c'est un bon film, mais tu me
casses. Voilà. Lundi, sinon, sur TCM à 22h20, Deadman de Jim Jarmusch en 99. Ah ouais. Alors, celui-là, il est en noir et blanc, il n'y a pas de problème, hein.
Oui, mais il est récent. Contemporain. Ça n'a rien à voir
mais
avec
il est en noir et blanc. Mais il est en noir et blanc. Et puis, il est certainement déjà passé dans pas mal de ciné d'art et essai. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Plutôt qu'en première partie, un dimanche soir, sur TF1. À mon avis.
Je pense aussi.
Lundi, sur Orange Ciné Géant, eh bien, il y a également Les Bons Meurent Jeunes ou The Good Die Young. Comme vous voulez, un film anglais de Lewis Gilbert en 1954, où j'ai oublié de noter le nom des acteurs, c'est très con de ma part, mais Lewis Gilbert, je vais vous en parler, parce que quand même, bon, c'est un réalisateur anglais, ça vous le savez, et vous le connaissez de toute façon, parce que vous avez déjà vu au moins un, voire deux de ses films, voire trois de ses films. C'est lui qui nous fait la version originale de Alfie en 1966, avec Michael Caine, qui avait été repris la nouvelle version avec comment il s'appelle là, celui que j'aime bien là, le blond anglais là, qui fait de la pub pour Chanel ou pour Dior là, un truc comme ça quoi.
Jude Law.
Jude Law, voilà, c'est ça, qui joue le.
Ah, t'aimes bien Jude Law toi.
Ouais, moi j'aime bien, ouais, sympa quoi, y a pas de problème.
Ça s'appelle un outing.
Ensuite, c'est l'homme qui a fait plus tard, juste après, l'année suivante, Alfie en 66, en 67, Lewis Gilbert qui nous fait You Only Live Twice.
You only live twice.
Alors ils vont me chanter. Alors vous me chantez également The Spy Who Loved Me en 77.
Alors c'était quoi ça?
Alors et alors plus difficile encore, Moonraker en 79.
Ouf.
Ah tu vois.
D'accord.
Ah, le film le plus pourri de James Bond. Bon voilà. Voilà, ça c'est Lewis Gilbert donc, et qui nous fait un bon petit polar donc, film britannico-anglais de toute façon 1954, Les Bons Meurent Jeunes. Ça c'est donc lundi sur Orange Ciné Géant. Mardi sur Polar à 21h, Marche ou Crève, un très 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 vieux George Lautner qui date de 1959 avec Jacques Ribrol, Bernard Blier, Daniel Sorano, ah ben on le connaît ici à Toulouse, hein, y a pas de problème, et Cendré, une histoire d'espionnage et d'un groupe d'espions qui kidnappe la famille d'un espion retiré pour qu'il revienne aux affaires.
Ouais, enfin c'est plus Zébarbousse.
Ouais, ouais voilà, c'est ça. Sur Orange Ciné Géant mardi prochain également à 20h40, Visa pour Hong Kong de Lewis Gilbert qui se paye quand même le luxe en 1959 de réunir Orson Welles pour ce Visa pour Hong Kong, Kurt Jurgens et Sylvia Sims. Pas mal quand même, hein, hein. Mercredi sur Comédie. Là également, c'est Black et Blanc, les Blacks sur scène et les Blancs dans la salle sur Comédie avec tout d'abord à 20h40 Fabrice Eboué en 2010 Bataclan. À 22h20 Thomas Gigol Bloc
Thomas
en 2009
Gigol. Thomas Gigol. Gigol. Comment t'as dit Thomas Gigol.
Comme qui rigole, oui.
Thomas Gigol. D'accord.
Donc non. Ça c'est sur Comédie, mercredi prochain. Jeudi sur TCM à 22h40, Les Aventures de Tarzan à New York de Richard Thorpe avec Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan et Charles Bickford, Bickford pardon, Richard et... Thorpe. Qui nous a fait quand même pas mal de Batman, de Tarzan. Oui. Ben non, mais New York.
Et puis Johnny Weissmuller, oui, qui nous a fait pas mal de brasse.
Parce que bon, Richard Thorpe, il commence sa carrière. Alors Richard Thorpe, il est anglais, il n'est pas américain d'ailleurs, il faut le savoir. Hein, même s'il a fait l'essence, il a même été enfant star dès l'âge de 12 ans, quoi. Il était comédien vedette. En Angleterre et tout, il a émigré très tôt aux États-Unis. Il a commencé sa carrière dans le muet en 1924 comme réalisateur. Hein, attention. Et au niveau Tarzan, il nous a fait Tarzan s'éva dans 1936, Tarzan trouve un fils en 1939, le trésor de Tarzan en 41 l'année suivante. Donc ce Tarzan à New York qu'on pourra voir sur TCM jeudi prochain à 22h40. Mais c'était également un
Il était au sport d'été, Weissmuller, pas au sport d'hiver.
Et comme il aime bien les films animaliers, il nous a fait aussi Le défi de Lassie en 1949.
Ah, on était sûr.
Bien entendu fait du polar.
Oui, Lassie, la fidèle.
Du western, dont l'excellent Vengeance Valley en 1951. Il a fait l'excellent Prisonnier de Zenda en 52. Une des meilleures versions, on va dire. Et ensuite, la vague KPDP avec l'excellent Ivan Noé, hein, avec Robert Taylor, Chevalier de la Table Ronde, La Perle Noire aussi, pas mal, Quentin Durward, et il a fait également des films avec Elvis, Jailhouse Rock, c'est lui, et Fun in Acapulco, c'est lui aussi, tu vois, c'est ça.
Pourtant, Jailhouse Rock, c'était assez moderne, hein, quand même, dans la mise en scène, la chorégraphie.
Ça... C'est-à-dire que le premier que Elvis avait tourné, quoi, c'était, je me rappelle pas le titre, mais bon.
Il est collé sur Elvis, Thomas, note.
C'est Love Me Tender, voilà, c'est le titre donc du film, me semble-t-il. Elvis était pas trop content et tout, et puis bon, personne n'était content de ce film. Parce que ça, bon, il crève à la fin aussi, c'est quoi le problème, quoi. Pour le deuxième film d'Elvis, donc, qui devait avoir sa carrière, qui devait monter en flèche et tout, on s'est dit, là, maintenant, il faut qu'on fasse appel à un réalisateur confirmé, à un vieux de la vieille et tout ça, et les studios l'ont dit, lui là, le gars, il est excellent, pas de problème, Richard Thorpe, et c'est pour ça qu'il a hérité de ce petit joyau qui est Jailhouse Rock. Là, je plaisante, hein, n'est-ce pas? Donc tout ça pour vous parler de Richard Thorpe qui nous fait les aventures de Tarzan à New York. Je répète encore une fois, c'est sur TCM jeudi prochain à 22h40. On a également jeudi prochain sur Orange Ciné Géant Appointment with Venus de Ralph Thomas, encore un film anglais avec David Niven et Gloria Jones. On a enfin vendredi sur la chaîne Polar, à 21h, Midnight, un polar de Chester Erskine, qui date de 1934. Alors, Chester Erskine, il a une carrière cinématographique très brève. Il n'a fait que 5 films, c'est normal.
Oula.
C'est un mec qui vient du théâtre. Il était acteur, puis metteur en scène de théâtre. Et à l'occasion, il a essayé de porter quelques pièces à l'écran, sur grand écran. Il n'a fait que 5 films, donc, dont ce Midnight, qui est son premier film. Avec B.P. Hugel, avec un certain inconnu qui s'appelait Humphrey Bogart à l'époque, en 1934, Sidney Fox et Henry Hull. Et ce Chester Erskine, donc, il va faire, après ce Midnight en 1934, il va faire un autre film en 47, un troisième en 49, un quatrième en 51 et le dernier en 52. Et c'est tout. Et voilà, c'est comme ça que s'arrête sa carrière cinématographique. Ce qui n'a pas empêché, entre les parutions de ses films et entre les tournages des films, eh bien d'avoir une bonne carrière théâtrale. Donc c'est ce vendredi prochain sur Polar à 21h Midnight. Et Orange Ciné Géant vous propose un excellent film de Edmond Goulding, s'appelle Le Fil Rasoir, d'après la nouvelle de Somerset Maugham, avec Tyrone Power, Jim Tierney et John Payne. Edmond Goulding, lui, il réalise ce film en 1946. Il est né en 1891 et il est mort en 1959. Il a commencé sa carrière cinématographique en 25 et il nous fait Grand Hôtel. C'est lui qui fait le Grand Hôtel en 1932 où on retrouve Greta Garbo, on retrouve John Crawford, Wallace Beery, John Barrymore, enfin bon, casting monstrueux quoi pour l'époque. Et c'est lui qui fait également 20 ans plus tard en plus également encore un autre film choral avec beaucoup de têtes d'affiche. C'est We're Not Married. Je sais pas si vous connaissez ce film, si vous l'avez pas vu, 5 mariages à l'essai, ça s'appelle en français. Hein, ça te dit quelque chose avec Marilyn Monroe, Ginger Rogers, Zsa Gabor. Tu te rappelles de ce film?
C'est une grosse comédie.
Voilà. Réalisé
c'est vrai
donc,
que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été diffusée.
Réalisé donc par ce Edmund Goulding, qui est également un réalisateur britannique, bien entendu. Et ce sera tout donc pour la programmation noir et blanc de cette semaine à la télévision.
Et ainsi se termine le supplément week-end numéro 288 du 17 septembre 2011 sur Radio FMR. Et si vous nous écoutez en stream, si vous nous écoutez sur la radio FM traditionnelle, si vous écoutez donc en téléchargé, vous êtes allé un petit peu vite dans le télécharge, dans l'écoute en diagonale, peut-être vous avez manqué quelque chose. Heureusement, Thomas va vous dire, ben, fallait pas. Fallait pas parce que...
Fallait pas venir en retard parce que on avait de la nécro, un George Lucas infanticide, un label urbain du Quasi, de l'autopromo caritative, du navet à tagline, un dérivé côte ouest, un mercato d'hiver où on se fait des nœuds, des insultes, No Life et Conan O'Brien, c'est obligé, de l'apnée, des noirs et des blancs en couleur, un Thomas Gigol, Batman Aidelian et le retour de la scie.
Non des nuances de gris, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas sur le site web supplementweekend.fr et vous retrouverez nos chroniques écrites pour le dossier qu'on a fait sur la fiction influencée par le 11 septembre, ainsi que des chroniques de Kingdom of War, La Pielle qui habite, le Harbou de Lucio Peronito, et aussi des chroniques cinéma, des chroniques extérieures comme Six Things the Film Industry Doesn't Want You to Know About. Vous écoutez FMR sur 89.1. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, une fille culottée, le retour de Frédéric Boilet et Aurélia Horita.
Et moi, je sais pas.
Et du sport, non plus. Voilà. Ok, ciao, bye bye. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. De suite, le résumé du seul mondial qui compte, The Rugby. Vous savez ce qu'on appelle les éliminatoires du Six Nations.
En exclu, je vous annonce que l'Irlande a battu les Sudaf ce matin.
Oh
oui.
Oh punaise. Ils étaient pas en forme alors les Wallabies.